Jean-Charles, je vous ai appelé Jean-Paul. Mais vous, vous êtes Monsieur Grelier, Jean-Charles de votre prénom. Merci d'être là.
Merci à vous.
Jean-Charles, vous dites que vous croyez en l'impossible et vous avez pu prouver qu'il est possible de faire bouger des jeunes, des gens qui ont trouble du spectre de l'autisme.
Oui, à partir du moment où on pense qu'on est fait déjà pour l'impossible. Et c'est là qu'on peut réaliser de grandes choses, en fait. Et avec le spectre de l'autisme, je ne vois pas ça, en fait, comme un handicap ou une maladie. Je vois déjà, je me mets toujours dans l'objectif de voir ça comme une expertise avant tout, et puis un surfonctionnement perceptif. Mm-hmm. Et donc, après, c'est à moi de m'adapter et de faire en sorte que je ne vais pas forcément adapter les activités physiques ou les sports. Ouais. C'est moi qui m'adapte, ma façon d'être.
Oui. Donc, vous ne voyez pas l'autisme comme une limitation?
Non.
C'est une possibilité en soi.
Il faut prendre en compte, il faut bien connaître l'autisme, sinon ça va déclencher des limitations. Mm-hmm. Mais quand je suis en cours avec les enfants, c'est bien connu scientifiquement qu'il y a des maladresses gestuelles, des problèmes de coordination dus à des problèmes au niveau du cervelet. Mais je fais en sorte qu'il n'y en ait pas. Et puis à partir de là, on peut faire tout. On peut tout déclencher parce que souvent même, on se trompe souvent, on pense qu'ils ont des limitations et ils ont des capacités des fois même hors normes qui dépassent même les enfants non autistes.
Mm-hmm. Ils ont peut-être une façon d'apprendre différente. Me fie à cet article paru dans la Presse Plus où l'on parlait de vos services, de votre approche. Une maman qui dit « J'ai tenté les cours réguliers en natation, mais ça convenait pas. Le rythme était un petit peu trop rapide pour mon fils. Avec Jean-Charles, ça fonctionne mieux parce que, encore, et je reviens à ce que vous avez dit, vous vous adaptez au rythme de l'enfant. »
Voilà, c'est ça. Et donc, une chose importante, c'est que je dénature pas les activités.
Ouais.
C'est-à-dire que je vais respecter la logique interne de l'activité, puis je vais pas forcément... Le matériel qui est souvent conçu pour pédagogiquement pour certaines activités, je l'utilise pas de la même manière. Mm-hmm. Et par exemple, je vais pas mettre de flotteur en natation au niveau des bras. Je vais les mettre au niveau des jambes pour que ça déclenche tout de suite au niveau didactique la propulsion des membres supérieurs.
Mm-hmm.
Et par exemple, je mets pas de roulette au niveau des vélos. Je veux leur faire sentir c'est quoi la sensation du vélo. Et une chose qui est très importante, ça a même été prouvé scientifiquement, c'est qu'on ne doit pas décontextualiser les choses. On doit rester dans le sens. Pour les enfants autistes, c'est très important le sens. Et donc, en fait, si on a tendance à faire ça dans le milieu du sport ou dans plein de domaines, dans la musique, on décompose. Mais très rapidement, si on le fait, il faut vite revenir dans le contexte. Par exemple, si on met des palmes, il faut tout de suite refaire l'exercice sans les palmes.
Okay.
Et donc, il faut éviter même souvent, c'est ça que je fais en vélo, de tout décomposer.
Mais en même temps, si l'on met des roulettes au vélo, l'enfant apprend jamais à tomber, apprend jamais l'équilibre.
Voilà, c'est ça.
Donc, vous allez chercher ça aussi, qu'ils vivent cette expérience comme n'importe quel enfant.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et ils ont le sentiment aussi au niveau de la confiance en soi. Donc, comme je reste dans la relation aussi, puis dans la confiance en soi, très rapidement, ils peuvent déclencher des choses à partir de là.
Mais j'ai envie aussi de revenir sur cette notion de relation. Vous parlez de confiance en soi, mais il y a la relation aussi de confiance qui s'installe avec vous. Je reviens à cet article encore dans la Presse Plus où vous dites « On se tient par la main, on saute dans la piscine, on vit cette sensation-là de remonter. » Évidemment, l'enfant, au départ, il peut avoir peur, mais à un moment donné, il sait que vous êtes là avec lui, que vous continuez à tenir la main. Ça, j'imagine que ça crée aussi de l'apprentissage, la notion de confiance.
Ah oui. Puis la relation, comme je le dis souvent, c'est ça prime avant l'apprentissage, en fait, tout ce qui est confiance.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, c'est une approche humaniste. Donc,
ouais.
C'est vraiment... pour moi, j'ai pas des méthodes, j'ai plein de méthodes, mais c'est surtout une approche. Donc, les techniques, j'en ai. Mais ce que je prime avant tout, c'est ma manière d'être, en fait, avec eux et de les accompagner.
Mm-hmm.
Comme vous avez pu lire dans l'article où je me conçois comme un spoutnik.
Oui.
C'est-à-dire que...
quelqu'un qui accompagne.
C'est ça, le pédagogue, en fait. Autrefois, c'était un esclave dans la Grèce antique qui accompagnait les enfants sur le chemin de l'école.
Mm-hmm.
Et donc, moi, c'est l'enfant qui est plus important. Et donc, je gravite autour, dans l'eau, sous l'eau, autour du vélo, autour d'un ballon. Et donc, après, c'est eux qui manipulent les objets.
C'est quoi les besoins de ces enfants-là lorsqu'il est question de bouger, lorsqu'il est question d'activité physique?
Mais ils ont tous les mêmes besoins que les enfants ordinaires. Mais en plus, il y a quelque chose de très important, c'est que c'est encore plus bénéfique. Il y a plus de bénéfices pour eux en termes de sur le plan cognitif. C'est-à-dire qu'on sait qu'au niveau des fonctions exécutives, les fonctions sensorielles et la communication, ça va avoir un impact énorme. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je détaille au niveau des fonctions sensorielles. Les fonctions, en fait, exécutives, pour moi, c'est très important parce que ça permet, en fait, aux enfants d'adapter leur comportement dans un contexte. Et donc, en fait, ça travaille tous les processus cognitifs qu'on a besoin à l'école. Donc, même dans la vie quotidienne, l'anticipation, la planification, l'organisation, la pensée abstraite, ça permet de... Donc, tout ça, c'est grâce à l'activité physique avec une légère connotation sportive.
Jean-Charles, si l'on donnait un exemple, par exemple, un jeu de ballon peut favoriser tous ces apprentissages-là?
Voilà, oui.
Oui?
Mais il faut éviter, par contre, de les emmener trop vite dans les sports collectifs.
Ah oui.
Car il y a beaucoup de choses à décoder. Il y a beaucoup de nuances sociales et tout ce qui est sociomoteur dans les jeux collectifs, c'est pas forcément tout de suite une chose à faire en premier. C'est pour ça que j'utilise une approche individuelle.
Mm-hmm.
Et ça a été prouvé qu'il y a beaucoup, même l'approche individuelle, c'est ça qui est très intéressant pour que les parents sachent que souvent, moi, on m'appelle et on pense que mettre des enfants dans un groupe, ça va les socialiser. Alors que non, il faut d'abord faire l'individuel, une approche individuelle. Et après, à partir de là, quand on est dans un duo, c'est à partir de là qu'ils vont se socialiser. Et ils ont prouvé scientifiquement qu'avec les enfants autistes, que quand les approches individuelles ont plus de répercussions au niveau social que les activités de groupe.
Et quel est le parcours après pour arriver au groupe? C'est parce que la confiance en duo a pu se créer?
Mais il faut travailler, comme ce qu'on fait aussi au jour de plus en plus, c'est la littératie physique, c'est-à-dire tous les fondamentaux moteurs. Et quand on a fait ça avec des enfants, même il faudrait le faire avec les adolescents le plus possible, il ne faut pas s'axer trop rapidement vers un sport.
Mm-hmm.
Et une fois qu'on a touché à tout, là, on a une expertise au niveau psychosensorimoteur et ça permet d'être prêt à faire plein de choses. Et quand vous me parlez de cette question au niveau des sports collectifs, il y a des exceptions. Il y a des enfants autistes, tout de suite, ils vont être attirés par les sports collectifs. Il ne faut pas les empêcher de le faire.
Mm-hmm.
Ils vont être fascinés souvent par le score ou être par dernièrement, j'ai vu dans la presse, par l'arbitrage.
Ouais.
Ça peut être... Mais au niveau des sports collectifs, il y en a certains qui ont prouvé qu'ils savent se démarquer mieux que d'autres enfants qui ne sont pas autistes.
Oui.
Parce qu'ils voient le jeu dans l'ensemble.
Donc, si j'entends bien, ça reste toujours une démarche de cas par cas.
Oui.
Vous rencontrez l'enfant, vous vous adaptez à ses besoins, à ses envies. S'il vous dit « je veux jouer à tel jeu » ou « je vais faire tel sport », vous y allez avec ça, mais l'objectif, c'est toujours de le faire expérimenter plein de choses.
Mais je suis quand même dépendant des infrastructures sportives. Je suis comme un travailleur de rue, moi. Je suis dans les parcs, je m'adapte dans les horaires des piscines publiques.
Donc, d'ailleurs, c'est une limitation un peu pour vous, ça, de dépendre parfois des infrastructures. Puis, ce n'est pas toujours non plus accessible du point de vue monétaire.
Donc, j'ai un sac avec plein de matériel dedans et je vais dans un parc. Et puis, on peut faire 9 activités en une heure. Ça, c'est très important s'il ne faut pas rester longtemps sur une activité. Il y a certains enfants vont rester 10 minutes seulement sur une activité et puis il faut tout de suite changer. Donc, la variation des tâches est très importante chez les enfants autistes.
Est-ce que vous devez établir avec l'enfant, ou du moins pour vous-même, en fonction de l'enfant, des objectifs bien précis?
Mais oui, j'ai toujours des objectifs en fait pour chaque enfant et puis ça se définit à chaque fois en fait, à chaque séance et c'est différent à chaque fois. Je compose. Il faut être un artiste en fait à chaque enfant parce que je sais jamais à quoi m'attendre selon le contexte, selon qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il arrive, comment il est, dans quel état. Donc il faut composer avec.
Mm-hmm. Et, la notion de plaisir, c'est important.
Oui. C'est la base de tout de l'éducation, en fait. On a trop tendance à être axé sur des objectifs d'apprentissage, à des acquisitions de connaissances, alors qu'on oublie que le sens même de l'éducation, le premier, c'est le sentiment d'exister réellement, donc le plaisir.
Oui. Et j'imagine la notion de jeu, d'avoir l'impression de jouer et pas de lancer un ballon pour apprendre telle ou telle chose.
Oui, le jeu, aujourd'hui, c'est prouvé avec les neurosciences cognitives que c'est le meilleur vecteur d'apprentissage. Donc, en fait, c'est naturel, c'est spontané et il ne faut pas justement casser ce rythme. Et quand on casse ce rythme, c'est souvent là que l'enfant va devenir paresseux ou il va arrêter d'apprendre, en fait.
C'est un peu frustré, non?
Oui, le jeu, c'est... On laisse un enfant libre, il va apprendre de lui-même. Et ça, chez les enfantistes, ils sont déjà autodidactes. C'est-à-dire que la majorité, il y a quand même des choses, même si tous les enfants autistes sont différents, on l'a même prouvé qu'ils sont même encore plus différents que les enfants non autistes, entre eux. C'est-à-dire que moi, je me suis occupé de jumeaux et ils avaient un profil cognitif complètement différent.
Et les deux vivaient avec un trouble du spectre de l'autisme.
Voilà, c'est ça.
Okay.
Donc, il faut s'adapter d'une séance à l'autre. Il ne faut pas faire la même chose. Et puis donc, ce qui est important aussi à comprendre, c'est l'apprentissage, il est implicite. Il ne faut pas rester trop longtemps dans un discours explicite.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est-à-dire qu'il faut... Il faut rester... Il y a une apparence, en fait, quand ils apprennent, on a l'impression qu'il y a un déficit ou une apparence de manque. Mais leur cerveau crée des prototypes. Et donc, c'est pour ça que quand je parle de satellites humains, là, je les accompagne. Mm-hmm. En fait, je les accompagne parce qu'ils ils apprennent par eux-mêmes. Donc, il y a une liberté motrice.
Ah, ouais.
Et spontanément, physiologiquement, il se produit des choses. Mais il ne faut pas non plus être non directif. Ce n'est pas de la pédagogie de la découverte. C'est-à-dire que j'impose aussi des choses. Je les dirige vers des endroits.
Ouais.
Mais il ne faut pas trop insister. Il ne faut pas être trop directif. Il faut être semi-directif, en fait.
C'est plus de l'ordre de la proposition.
Voilà.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Jean-Charles, quels sont les bienfaits du point de vue de leur santé globale? Est-ce que vous pouvez observer concrètement des choses, ne serait-ce que dans la mobilité, l'équilibre? Est-ce que, y a des résultats à quelque part?
Oui, ben, au niveau de la santé, de la condition physique, déjà, par exemple, j'ai un exemple d'un enfant que je m'occupe depuis 2 ans et demi. Et en fait, on fait beaucoup d'apnée tous les dimanches. Et en fait, c'était un enfant qui était né avec des problèmes pulmonaires. Et donc, en fait, il avait il est né avec, en fait, il est prématuré. Donc, en fait, il était suivi en pneumonie. Et donc, à force de faire de l'apnée continuellement, maintenant, il n'a plus besoin d'être suivi.
Ah, ouais.
Donc, mais ce n'est pas de l'apnée, il faut faire attention, il faut que ça soit très pédagogique parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'impliquent dans l'apnée, en fait.
Mm-hmm. Donc, ça, c'est la preuve d'un résultat extrêmement concret. Et on ne parle pas de médication, là.
Non.
On parle d'une activité de loisir, d'une activité sportive qui peut améliorer la capacité physique, la condition physique de quelqu'un. C'est assez majeur. Les parents, quel est le contact avec eux? Eux, j'imagine qu'ils arrivent avec des attentes, des désirs. Est-ce que vous devez les écouter? Est-ce qu'ils sont aussi partie probante du développement de l'enfant ou vous les laissez un petit peu à l'écart?
Non, ils sont toujours avec moi.
Ah oui?
En fait, donc ils participent avec moi. Et donc, en fait, ils aiment ça parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que je suis devenu une sorte de consultant. Mmh. Je ne m'attendais pas à ça aussi. C'est-à-dire que en m'observant, et ça leur donne des idées. Et puis même, ils aiment voir les progrès de leur enfant. Et puis, il y a une bonne interaction aussi en même temps.
Et le parent peut continuer peut-être les activités à la maison lorsque ça plaît à l'enfant?
Ça, par contre, il faut faire... C'est pas forcément facile au début parce que, en fait, si je fais du travail la semaine avec eux, puis qu'après, ils essayent de reproduire les choses, ça marche pas forcément.
Mm-hmm.
Parce que j'ai vraiment une approche qui est particulière avec eux.
Ouais.
Je me connecte avec eux, en fait. Et être un parent, c'est pas la même chose, en fait. C'est pas forcément un intervenant. J'agis presque comme une sorte de grand frère, en fait.
Ouais,
Je suis pas un parent.
Jean-Charles, dans votre vie d'avant, vous aviez un autre boulot où des collègues vous disaient « Bah, t'arriveras jamais à rien avec tel enfant, oublie ça. » Vous tentez de prouver au quotidien, bon, on le disait en début d'entrevue, il n'y a rien d'impossible. Est-ce que vous avez été déjà confronté à des situations où c'était pas possible d'arriver à quelque chose?
Non, il y a toujours quelque chose de possible. Non, il y a toujours quelque chose de possible. Même des choses, les mettre sur un vélo, ils pédalent pas, c'est parti, je pars avec eux.
Ouais.
Il y a toujours une manière de trouver un contexte, de déclencher la motivation chez eux, intrinsèque et non pas extrinsèque.
C'est quoi votre plus belle réussite?
Ben déjà, quand j'ai commencé en tant que stagiaire en France, il y avait une enfant qui s'était mis à écrire et à lire suite à l'apprentissage du vélo.
Hein?
Son enseignante me l'avait dit. Et parce que ça avait eu un impact, c'était la seule de l'école qui ne savait pas faire du vélo. Je l'ai accompagnée pendant 1 an. Et donc, ça a eu un gros impact. Il y a eu d'autres enfants aussi que personne ne voulait s'en occuper parce qu'ils cassaient tout. C'était des grandes expériences.
Et donc, l'accomplissement dans une activité, par exemple, de pouvoir faire du vélo peut changer tout le rapport à l'éducation, à notre présence en classe, à l'apprentissage de la lecture.
Ah oui, ça a des répercussions, c'est des transferts. Donc, c'est évident que ça a des répercussions partout dans la vie quotidienne. En fait, juste une réussite, une petite réussite, que ça devient très, très
boule
important.
De neige.
Puis le corps, on oublie souvent le corps. On voit que le corps comme un instrument, mais le corps, c'est aussi important que l'esprit, que le cognitif. Et c'est à partir du corps que le cognitif se fait.
Jean-Charles, est-ce que vos services ou votre approche, je préfère ce terme-là, peut également aider d'autres personnes, d'autres enfants qui ne vivraient pas avec un TSA, mais peut-être d'autres défis?
Oui, mais je me suis occupé, moi, avant, pendant des années, j'ai travaillé avec des jeunes qui avaient une déficience intellectuelle. J'ai même travaillé, même avec les enfants ordinaires, ça marche. C'est une approche humaniste. Donc, même mes méthodes d'enseignement que je fais, je suis sûr que je l'ai déjà testé, c'est plus rapide que donner des cours de natation dans certaines piscines, en fait. Parce qu'au bout de même pas quelques minutes, l'enfant saute dans le grand bassin et il met la tête sous l'eau. Alors qu'il faudrait des tonnes de cours pour arriver à ça pour certains.
En terminant, qu'est-ce que vous diriez à des parents qui nous écoutent et peut-être un peu à l'instar de cette mère dans cet article, je reviens à la presse plus, qui dit « ben moi, j'ai essayé les cours réguliers de natation, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il faut absolument aller dans une méthode qui est alternative ou continuer à essayer différents cours? » Qu'est-ce que vous diriez à ces parents-là?
Malheureusement, ça fait des années que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans mon domaine. En fait, les gens qui aiment le sport ou l'activité physique ne sont pas attirés par l'autisme. Mais c'est en train de changer, j'espère. C'est deux mondes en fait, qui doivent coexister et c'est sur le point de se faire, en fait. Mais il faut qu'on voit l'activité physique d'une autre manière, qu'on ne confonde pas le sport et la santé.
Oui.
Voilà.
Et en même temps, le taux de prévalence est sans cesse en augmentation.
Oui,
là,
c'est ça.
Pour l'autisme,
donc, il faut qu'il y ait
de
plus en plus de gens qui soient formés, en fait.
Voilà.
Et on peut former de plus en plus les gens dans les piscines, dans tous les endroits où il y a de l'activité physique, même si ce n'est pas des professionnels qui ont été formés à l'université, comme moi.
On peut également aller à votre rencontre. Je laisse votre site J.C. Grelier, kinésiologue/home. On laissera également votre site web sur le nôtre, Jean-Charles Grelier. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présence.
Mais je vous remercie beaucoup pour cette émission.